Voilà, nous continuons notre série Béréen l'explorateur. Nous voulons explorer la parole de Dieu pour apprendre des choses que nous négligeons parfois. Et c'est aussi un moyen de lire toute la Bible, même si on fait des sauts de texte, mais on va lire beaucoup. Ce que nous prenons de Genèse jusqu'au bout. Et nous en étions au chapitre 9. Donc on a parlé de la malédiction sur Canaan. Donc il y avait eu après des questions là-dessus sur le fait que, voilà, ce passage-là est utilisé pour parler du fait que les Noirs sont maudits, des choses comme ça. Et on avait dit qu'on continuerait aujourd'hui à en parler, puisqu'il y avait... Donc il fallait qu'on fasse quelques précisions, notamment sur la descendance de Cham. Donc, dans le chapitre 10, au verset 6, donc on peut lire tout le chapitre 10, presque. Il est écrit au chapitre 10, Voici la postérité des fils de Noé, Sem, Cham et Japhet. Il leur naquit des fils après le déluge. Les fils de Japhet furent Gomer, Magog, Madaï, Javan, Tubal, Méchec et Tiras. Les fils de Gomer, Ashkenaz. Les fils de Japhet furent plutôt Gomer, Magog et ainsi de suite. Les fils de Gomer, Ashkenaz, Riphat et Togarma. Les fils de Javan, Elisha, Tarsis, Kittim, Dodanim, c'est par eux qu'ont été peuplées les îles des nations, selon leur terre, selon la langue de chacun, selon leur famille, selon leur nation. Les fils de Cham furent Cush, Mitzraïm, donc Cush qui veut dire Éthiopie, Mitzraïm qui veut dire Égypte, Put et Canaan. Les fils de Cush, Saba, Avila, Sabta, Réma, Sabteka, les fils de Réma, Seba et Dedan. Cush engendra aussi Nimrod. Donc ça, c'est très important. On va y revenir sur Nimrod. C'est un personnage qu'il faut connaître. Donc nous revenons sur la descendance de Cham. Donc il y a Cham qui avait vu donc la nudité de son père. Donc il y a eu malédiction sur son fils Canaan. Mais quand on lit, on voit que les fils de Cham furent Cush, Mitzraïm, Put et Canaan. Donc, pourtant, quand il y a eu malédiction, c'était sur le nom de Canaan. Mais les gens, dans leur interprétation, ils disent Cush. Mais Cush, c'est le fils de Cham, c'est pas sur lui. Même si on considère qu'en réalité, la malédiction, c'est surtout les enfants de Cham. Mais l'interprétation comme quoi c'est sur Cush que la malédiction vient n'est pas logique, n'est pas biblique, parce qu'on voit bien que Cush était un frère de Canaan. Il était un frère de Canaan. Et donc, pourtant, la malédiction a été donnée sur le nom de Canaan. Donc, on voit que c'est déjà un éloignement par rapport à la Bible que de dire que la malédiction était sur Cush. Là, on a bien lu, c'était sur Canaan, la malédiction, et que Cush n'était pas le fils de Canaan, mais le frère de Canaan. Voilà, donc puisque c'est dit, le fils de Cham, c'est Cush, Mitzraïm, Put et Canaan. Donc c'est bien clairement dit. Donc après, on peut accepter, par rapport au fait que c'est Cham qui a péché, on peut accepter que c'est tous ses enfants qui ont comme était maudit à travers lui, mais toutefois, la Bible parle de Canaan, la Bible ne parle pas de Cush. Donc la Bible parle clairement de Canaan. Donc il faut, déjà là, cette interprétation-là, on peut l'écarter rien qu'à partir de ça. Et puis, il y a ce qui est important pour nous, c'est le verset 8, « Cush engendra aussi Nimrod ». Donc ça, c'est le plus important. C'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Donc c'est comme si on disait que c'est le premier vraiment homme à devenir puissant. Donc les autres hommes avait presque une puissance égale donc avant Nimrod. Mais c'est à partir de Nimrod qu'on commence à voir l'émergence d'un leader mondial, de quelqu'un de puissant dans le monde. Et c'est Nimrod donc, qui va être le précurseur de Staline, Hitler, tous les dictateurs, les Jules César, tous ceux qui sont venus après. Donc il commençait à être puissant sur la terre et il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel. C'est pourquoi l'on dit comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel. Donc c'est quelqu'un qui avait une sorte de personnalité, de grandeur, rivalisant avec celle de Dieu lui-même. Donc, et nous n'avons pas que la Bible qui parle de Nimrod. Donc, il y a plusieurs autres littératures qui parlent de Nimrod comme étant un dictateur puissant, donc l'un des le premier dictateur qui a vraiment... Et c'est lui qui a construit donc la ville de Babel. Donc, par la suite, on va lire, c'est lui qui a construit la ville de Babel. Donc, par conséquent, la tour de Babel. Donc, Nimrod est un nom à retenir. Dans diverses études qu'on fera plus tard, son nom reviendra parce que c'est vraiment une sorte de rival, d'opposant de Dieu. D'ailleurs, son nom veut dire fort ou rebelle aussi. Donc, c'est le premier qui vraiment s'élève contre Dieu. C'est le premier qui devient puissant. Et il est écrit au verset 10, « Il régna d'abord sur Babel. » Voilà. Érec, Akkad, Calné, au pays de Shinéar. Donc Shinéar, c'est Babylone. Et ainsi de suite. De ce pays sortit Assur, il bâtit Ninive, Rehoboth, Ir, Calac et Rezen. Entre Ninive et Calac, c'est la grande ville. Mitzraïm engendra les Ludim et il y a toute, on voit toute la succession. Et au verset. On peut lire jusqu'au verset 32. Donc on voit tout ça, c'est la succession de Noé. Et nous aussi, on peut comprendre que nous sommes directement successeurs de Noé parce que il n'y a que la famille de Noé qui a été sauvée dans l'arche. Donc en quelque sorte, l'humanité... Elle est d'Adam, c'est vrai, mais elle est particulièrement de Noé. Elle est directement issue de Noé. Verset chapitre 11. Donc, on a vu que Nimrod a régné sur Babel. Et maintenant, nous relisons le chapitre 11. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, « Allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. » Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, « Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. Et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. » Donc, volonté de se faire un nom, de se faire une lignée personnelle. Donc, c'est l'homme qui veut devenir... le Dieu de l'homme. Donc, les hommes veulent se rassembler pour constituer une organisation qui soit le support de l'humanité. Or, c'est Dieu qui a créé l'humanité. Et il est écrit au verset 5, l'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Alors, allons, descendons et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Donc on voit une succession, Nimrod vaillant devant l'Éternel, et roi de Babel, et là on voit la tour de Babel, un édifice censé atteindre les cieux, donc rivaliser avec Dieu et réunir l'humanité. Et on sait que tous les dictateurs mondiaux ont toujours eu ce rêve-là de réunir l'humanité sous leur contrôle. Donc il y a eu l'Empire romain, l'Empire grec, c'est tous ont été dirigés par des dictateurs qui ont voulu réunir le monde entier. Et nous connaissons le plus récent, c'est Hitler qui a voulu aussi réunir le monde entier autour de lui, donc comme chef. Et aujourd'hui, nous entendons parler du nouvel ordre mondial. Donc c'est le nouvel ordre mondial qui veut que le monde entier soit uni autour des humains, voilà, dans une logique de gouvernement central qui dirige le monde entier. Et l'Europe est une, comment dire, est un essai. L'Europe est un essai de construction. Donc ça prépare la construction du gouvernement mondial. Et comme nous l'avions dit précédemment, nous voulions montrer les images pour comprendre que c'est vraiment vrai et profond. C'est que le Parlement européen est construit dans la logique de la tour de Babel. Donc on va voir quelques images qui nous montrent ça, si on peut les projeter. Voilà, donc il y a cette image, on ne peut pas agrandir, hein. Non, on ne peut pas grandir. Donc, on voit la forme du Parlement européen greffée à l'ancienne tour de Babel. Mais ça, il faut savoir que ce n'est pas les anti-Europe qui ont fait ça. C'est les Européens eux-mêmes. Eux, ceux qui construisaient ce Parlement, c'est eux qui ont fait ça. Au fait, ils ont utilisé la peinture d'un certain Bruegel. Un certain Bruegel a fait la peinture de la tour de Babel. Donc, pour construire le Parlement européen, ils se sont inspirés de la peinture de Bruegel qui est à gauche. Donc, Bruegel avait fait la tour de Babel. Et eux, pour construire le Parlement européen, donc ils ont, se sont inspirés de la peinture de Bruegel. Ce n'est pas un secret, c'est quelque chose d'officiel. Donc, ce n'est même pas, ils ne s'en cachaient même pas. Donc, c'est construit dans la logique de Bruegel, de la tour de Babel. Et on va prendre l'autre image, la plus dangereuse. Bon, là, ça montre un peu la ressemblance. Mais une autre image encore, là où on dit... plusieurs. Ah bon? Pourtant, on a mis l'autre aussi. Voilà. C'est cette image-là, donc la plus dangereuse. C'est écrit l'Europe. Il ne se cache pas. Donc, déjà, la construction, on voit bien que ça ressemble à la tour de Babel, avec les étoiles de pays européens. Et c'est écrit Many tongues, one voice. Donc, plusieurs langues, une voix. Donc, c'est des gens qui ont décidé de contredire Dieu. Donc la tour de Babel, c'est un édifice qui a été fait pour rivaliser avec Dieu, pour constituer une organisation humaine qui soit aussi puissante que Dieu lui-même. Et ça a échoué. Donc Genèse nous montre que Dieu a fait échouer le travail. Maintenant, eux, ils veulent ressusciter ça. Ils veulent ressusciter ce travail-là en se moquant de Dieu, en disant, bon, tu as mis plusieurs langues, mais pourtant, nous avons une seule voix, nous parlons d'une seule voix. Il y a plusieurs langues, certes, tu as réussi ton coup, mais ça ne nous empêche pas de parler d'une même voix. C'est vraiment une construction dans l'idée, c'est bon, on peut enlever, c'est une construction dans l'idée de ressusciter la logique de Nimrod, de la tour de Babel. L'Europe est vraiment le centre préparatoire de la construction du nouvel ordre mondial. Donc, toutes les lois les plus méchantes, les plus anti-Dieu, c'est en Europe que ça se fait. Mariage homosexuel, des dirigeants qui épousent carrément des hommes qui épousent des hommes, mais des premiers ministres, des présidents, des gens de ce niveau-là. Ça se fait ici. Un président qui divorce clairement pendant son mandat, qui épouse une autre rapidement, ça se fait ici. Donc, toutes les abominations sont en préparation en Europe afin d'être répandues dans le monde entier. Donc, et quand on est dans d'autres pays, on s'en rend compte que l'Europe est vraiment différente. Même quand il suffit de suivre les chaînes européennes et les chaînes étrangères, ce n'est pas la même chose. Il y a trop d'immoralité dans les chaînes européennes, trop de bêtises, trop... Alors qu'on peut, même rien que je vous donne l'exemple, Yahoo, il y a Yahoo France, il y a Yahoo États-Unis. Vous allez voir la différence dans Yahoo États-Unis, vous n'allez pas voir de nudité, vous n'allez pas voir des trucs compliqués dans le sens immoral, mais dans Yahoo France, c'est tout le temps ça. Donc c'est, l'Europe est vraiment une construction qui se fait sataniquement pour préparer le nouvel ordre mondial. Et de plus en plus, beaucoup de chrétiens ont du mal à respirer en Europe. De plus en plus, ils ont du mal. Oui.
Le fait que l'Europe soit une base en termes d'immoralité, est-ce que c'est lié tout simplement au projet du diable ou c'est lié aussi à la prédisposition des Européens ?
Non, c'est lié au projet du diable, puisque tout homme est pécheur. Tout homme est pécheur. Maintenant, comme Dieu aussi avait choisi Israël pour certaines raisons, le diable a choisi aussi l'Europe parce qu'il a fait un travail dans le monde entier. Et l'Europe s'est prêtée comme il faut pour ce travail-là. C'est comme Israël, Dieu a regardé les hommes et il a trouvé Abraham. Donc c'est Abraham qui a été... le père de la foi, et il a voulu travailler avec la descendance d'Abraham, ainsi de suite. Et donc, c'est la même chose que l'Europe. Satan a essayé partout, et l'Europe s'est prêtée à être donc le foyer de son travail pour rivaliser avec Dieu. Et ça, c'est la partie action de l'ennemi, mais il y a aussi la partie descendance. Donc, quand on voit... les descendants de l'Empire romain. Donc l'Europe, c'est la descendance de l'Empire romain. Et l'Empire romain, en quelque sorte, a été cité dans les quatre empires de Daniel. Donc quand on parle de l'Empire qui a été mélangé avec une grande puissance, donc il s'agit de l'Empire romain. L'Empire romain a écrasé tout sur son passage. Et donc l'Europe est... Certains chrétiens disent que c'est la bête qui va être guérie de l'Apocalypse. Il y a une bête qui était avant, qui avait été blessée, elle va être guérie. Donc, en quelque sorte, les gens veulent guérir l'Europe, qui était autrefois la puissance mondiale à travers l'Empire romain. Mais cette bête commence à être guérie pour redevenir puissante. Mais pour redevenir puissante, il faut qu'ils reconstruisent la tour de Babel. Il faut qu'ils reconstruisent l'Europe, il faut qu'ils rebâtissent l'Europe. Donc c'est la troupe de Babel qu'ils reconstruisent pour redevenir puissant et être le canal par lequel le diable va dominer l'humanité. Donc c'est ce qui se passe. Et aujourd'hui, ça devient de plus en plus difficile de vivre la vie chrétienne en Europe. On risque à tout moment, dernièrement, quelqu'un qui avait dit que l'homosexualité est une abomination est entré, a été condamné. Voilà. Donc, de payer 5 000 euros.
Une petite parenthèse. Donc, est-ce qu'on peut dire que politiquement, un chrétien ne peut pas adhérer à l'Europe ?
Adhérer à l'Europe dans quel sens ?
Ben, être pour l'Europe, c'est-à-dire...
Non, un chrétien ne peut pas être pour l'Europe parce que c'est une construction, c'est la tour de Babel qui se construit. Et ce n'est même pas nous qui disons ça, c'est eux-mêmes. Le problème, c'est qu'on dirait que si c'était notre interprétation, ça, on comprendrait que certains discutent pour dire « mais non, ça c'est eux-mêmes ». Donc ils ont bâti le Parlement européen dans la logique de la tour de Babel, donc la peinture de Bruegel. Ils ont bâti ça exprès. Donc il y a une volonté satanique de reconstruire la tour de Babel, mais cette fois-ci ce n'est plus un bâtiment, mais c'est des peuples. Et ça a toujours été ça, en réalité c'est le peuple. Le bâtiment, qu'est-ce que ça va faire contre Dieu ? Donc c'est vraiment le peuple uni dans un projet où finalement... C'est l'homme, donc l'organisation de l'homme qui devient le Dieu de l'homme. Et aujourd'hui, tout ce qu'on peut faire en France, on te dit, il faut d'abord voir avec l'Europe. C'est l'Europe qui décide. C'est l'Europe qui décide. Telle loi, mais c'est l'Europe qui va décider, qui va donner son dernier mot. Donc aujourd'hui, c'est l'Europe qui devient le recours pour tout. Oui.
Je ne suis pas très forte en politique, mais il me semble que c'est un peu dans cette dynamique que les partis politiques sont, pour l'Europe, que ce soit la gauche ou la droite.
Voilà, pour l'Europe.
Il n'y a qu'un, le parti genre FN, je crois, qui n'est pas...
Le Front National est officiellement opposé à l'Europe, mais on ne sait pas s'il prend le pouvoir, s'il va continuer à être opposé. Voilà. Officiellement, il est opposé. Il n'y a pas que le Front National. Il y a, je crois, Nicolas Dupont-Aignan. Voilà. Il y a des gens qu'on appelle les souverainistes. Mais ils sont minoritaires. Ils sont minoritaires. Le parti qui est consistant, qui soit opposé à l'Europe, effectivement, c'est le Front National. Voilà, c'est le Front National. Oui.
Pasteur, moi j'avais une question. Le but en fait d'un humain, c'est d'évoluer. On est dans une société où on voudrait évoluer. Et c'est vrai qu'à vue d'œil comme ça, on peut penser que l'Europe c'est bien parce que la mondialisation, c'est quand même favorable à l'humain. Et à côté, c'est contradictoire à la Bible en fait.
Non, la mondialisation n'est pas favorable à l'humain. La mondialisation,
oui,
c'est
maintenant...
que les riches deviennent plus riches et les autres plus pauvres. Donc le pourcentage des gens qui détiennent le plus de richesses diminue. Donc il y a de plus en plus peu de gens, mais qui ont presque toutes les richesses de l'humanité.
Et certainement que les richesses sont mal réparties, mais tu es d'accord avec moi aussi qu'avec la mondialisation, on voit quand même que les peuples ont évolué. Il y a certaines choses avant qui étaient que pour les riches. Parce qu'on dit aussi que plus les riches s'enrichissent, il y a aussi une classe derrière qui suit derrière
aussi.
Ah
non, c'est faux, aussi, justement. C'est pas la réalité. La réalité, c'est que plus les riches s'enrichissent, plus les autres s'appauvrissent. Mais... Ce n'est pas le téléphone qui va faire que quelqu'un évolue. Hein. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tout le monde a un téléphone. Il faut voir comment les gens mangent, comment les gens vivent. Voilà, c'est ça qui...
Oui, mais aujourd'hui, par exemple, nos vêtements, on les achète moins cher maintenant aujourd'hui. Ce n'est plus comme avant où c'était...
Mais les vêtements,
c'est la mondialisation
aussi.
C'est
pas ça la vie.
Oui, mais c'est un exemple parmi tant d'autres, en fait.
Oui, mais il y a beaucoup plus de suicides aujourd'hui qu'avant. Donc, c'est que les gens sont malheureux plus aujourd'hui qu'avant. Donc ce n'est pas que ça. Hein. C'est qu'aujourd'hui, l'homme n'a pas d'espérance. Tu es bloqué par le système. Il n'y a pas... on va tout breveter. Donc avec le temps, tu ne pourras même plus cultiver la plante que tu veux cultiver. Parce que ça sera interdit. Tu devras acheter la semence de Monsanto et pour cultiver, sachant que cette semence-là ne peut pas se reproduire. Tu dois racheter chaque année. Aujourd'hui, les agriculteurs en Inde s'appauvrissent à cause de ça. Donc, on leur a obligé d'acheter les semences Monsanto. C'est que le problème, c'est que quand tu plantes un maïs Monsanto, les grains-là, tu ne peux plus les réutiliser. Ça ne peut pas produire un autre maïs. Tu es obligé chaque année d'acheter les semences chez Monsanto. Donc, au début, on te dit, c'est des semences, il n'y a pas de maladie. Donc, vous allez produire, il ne va pas y avoir de problème des parasites qui vont tuer la récolte. Mais après, tu deviens esclave de Monsanto. Et ce sont des semences qui... C'est-à-dire que si dans ce pan de terre, tu plantes le maïs Monsanto, si tu veux changer après planter un autre maïs, ta terre refuse. Donc c'est ça. Donc finalement, les gens deviennent esclaves de Monsanto. C'est ça la mondialisation. Ils deviennent esclaves. Et ils s'appauvrissent encore davantage. Avant, ils n'avaient pas beaucoup, mais ils étaient autonomes, ils étaient libres. Aujourd'hui, non seulement ils n'ont pas beaucoup, mais ils sont esclaves de quelqu'un d'autre. C'est ça la réalité. Donc en apparence, oui, la télé s'est répandue partout, mais ce n'est pas la télé qui fait le bonheur. C'est l'apparence. Mais en réalité, les gens souffrent plus qu'avant. Et quand on n'est pas vraiment... Bien positionné dans le système, c'est la galère. Oui.
Pasteur, vous dites que l'ennemi, en fait, c'est lui qui fait ça en Europe. Le Seigneur permet que ça se passe en Europe?
Non, c'est le choix des humains. C'est-à-dire, par exemple, nous, si on dit non, ça va se passer dans toute l'Europe, sauf à Rouen. Là où tu es, en tant que chrétien, tu dois refuser que ça se passe chez toi.
Alors justement, si par exemple, j'ai une image, si tous les chrétiens d'Europe
Ça va changer.
Se rassembler contre ce projet...
Mais ça va changer les choses, mais est-ce qu'ils vont le faire? C'est ça le problème. Donc nous, on ne peut que limiter les dégâts. le temps que les chrétiens sont sur terre, ils limitent les dégâts. Mais la Bible nous montre qu'à un moment donné, les chrétiens vont perdre la foi. Et donc le Seigneur viendra avant vraiment qu'ils perdent tout pour les enlever. Donc le nombre de gens qui vont avoir la foi. Au fait, nous allons revivre Sodome et Gomorre. On n'est pas encore arrivé là. Nous allons revivre Sodome et Gomorre, c'est-à-dire le nombre des justes va diminuer. À un moment, Dieu va voir que le nombre est trop petit. Vaut mieux que je les enlève afin que ça ne diminue pas encore. C'est ce qui va se passer. Donc, les hommes, justement, forts de la tour de Babel, ils ont l'impression qu'ils peuvent tout faire. Ils peuvent tout soigner, ils peuvent faire ceci. Mais bien sûr que dans l'erreur, parce que quand on voit bien, les gens continuent à souffrir, mais ils sont trompés par des paroles de flatterie du diable à travers la télé et autres médias. Et ils ont l'impression d'être bien, d'être forts, d'être libres, de pouvoir manger à leur, quoi, comme ils veulent. Mais on sait bien qu'est-ce qu'ils mangent, comment c'est pollué chimiquement, comment c'est pollué biologiquement par les OGM. Mais comme ils voient la quantité, ils se disent, ben voilà. Et à un moment dans Jérémie, Jérémie est en train d'exhorter le peuple d'Israël à revenir à Dieu et à arrêter avec la reine du ciel. Et les gens lui ont dit vertement, quand on est avec la reine du ciel, on a des récoltes. Ils lui ont dit ça clairement. Pourquoi on va revenir à Dieu? Quand on est avec la reine du ciel, elle nous donne ce que nous on veut. Et donc, aujourd'hui, les gens vont nous dire vertement, mais non, j'ai la nourriture, j'ai le vêtement, voilà, avec l'Europe, voilà, les choses fonctionnent. En réalité, ils ne font que se plaindre et souffrir de notre côté. Le vrai problème, c'est que plus le temps passe, plus ils sont en colère contre Dieu parce qu'ils trouvent que Dieu veut gérer leur vie. Et les gens vont devenir de plus en plus irréligieux, rebelles. C'est ce que la Bible prédit. C'est cette rébellion-là qui les amène à dire « Mais non, on est bien comme ça avec l'Europe. » En réalité, c'est faux. Oui.
Oui, justement, en parlant de Jérémie, parce que Babel se trouve en Babylone.
Oui, oui.
Bon, est-ce que ça explique dans Jérémie 51 que Jérémie prophétise un peu contre Babylone?
Babylone, même d'Apocalypse, c'est toujours contre Babylone. Voilà.
Mais après, pourquoi est-ce que, quand même, parce que à un moment le roi Nebuchadnezzar a dans Jérémie là, quand Jérémie prophétisait pour que
les juifs, gens ne résistent pas.
Voilà. Mais pourquoi est-ce que malgré tout Dieu a quand même permis que Nebuchadnezzar?
À cause du péché d'Israël.
D'accord.
Donc, Dieu a utilisé Nebuchadnezzar contre Israël à cause de son péché. Mais Dieu s'était promis que les nations que lui, il utilise contre Israël, il va se venger pour Israël après. Voilà. Donc, mais entre-temps, à cause du péché d'Israël, il utilise ces nations contre Israël.
Mais est-ce que cette malédiction sur Babylone est due à Genèse 11, là?
La malédiction sur Babylone?
Oui, dans Jérémie, là.
Mais quelle malédiction sur Babylone?
Bah, il prophétise un peu contre Babylone.
Ah non, ce n'est pas dû à Genèse 11, c'est dû à tout ce qui s'est pratiqué à Babylone.
D'accord.
D'ailleurs, la thèse de Alexandre Hislop, le livre « Les deux Babylones ». Donc, Alexandre Hislop démontre dans son livre que toutes les mauvaises pratiques religieuses viennent de Babylone. Et que toutes ces mauvaises pratiques religieuses qui viennent de Babylone se retrouvent dans le catholicisme. Donc quand il dit les deux Babylones, donc il y a deux Babylones. La Babylone ancienne, antique, donc celle-là dont on parle là par Jérémie, et la Babylone actuelle qui est le catholicisme. Et il démontre, c'est sa thèse de doctorat. Donc il démontre que tout ce qu'il y a de catholicisme, ça existait déjà. Et il montre ça, et que tout s'est répandu lorsque Dieu a dispersé les peuples. Donc, chaque peuple, les langues, quand il a fait les langues, donc chaque peuple est parti avec un peu de la fausse religion de Babylone. C'est pourquoi ça s'est répandu dans le monde entier. Donc, il démontre ça. Il démontre que, par exemple, au Japon, l'habit des prêtres japonais, c'est le même habit que les prêtres catholiques. Ils démontrent tout ça. Dans le monde entier, on retrouve tout ce qu'il y a dans le catholicisme, on retrouve ça dans le monde entier, bien avant. Donc, ils montrent que tout ça vient de Babylone. C'est ça son livre. Et donc, Babylone, c'est donc la lutte contre Dieu. Oui. Il y a Frère derrière. Et tout ça est lié aussi à Nimrod. Donc, on dit c'est le Nimrod qui est le premier à être puissant sur la terre. Oui.
Oui, au jour d'aujourd'hui, Babylone correspond à quelle ville ? La vraie, hein, l'emplacement de l'ancienne Babylone, au jour d'aujourd'hui, ça correspond à quelle ville exactement ?
Je crois qu'il n'y a pas une ville qui a repris. Il y a un site de Babylone, voilà.
Donc Babylone, en fait, ça n'existe plus.
Voilà.
Ça n'est on n'a pas... jamais reconstruit cette ville-là.
Non, non.
Et ça n'a pas une signification, ça ? Parce qu'en général, les grandes villes comme celle-là, on reconstruit par-dessus.
Mais je crois que si, il doit y avoir une prophétie qui empêche ça.
Parce que les fameuses portes de Babylone qui ont été...
Berlin.
Voilà, Berlin. Donc ce site-là, en fait, est resté un site archéologique, finalement.
Voilà, c'est resté un site archéologique. Mais il doit y avoir une prophétie aussi qui prophétise que Babylone ne sera plus reconstruite. Quelque chose comme ça. Bon, faut vérifier. Voilà.
Oui, je veux revenir à ce que tu disais tout à l'heure, quand tu parlais de Sodome et Gomorre, en disant qu'on allait être de moins nombreux à être juste, en fait. Mais c'est un peu contradictoire avec ce que dit Pierre. Il dit que le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa parole, mais il veut que tous soient sauvés. Mais si, au fur et à mesure qu'on avance, les chrétiens perdent la foi.
Ah non, mais il y a des gens à sauver. Donc, quand tout ce monde-là à sauver va rentrer... En même temps, il y a des dégâts de l'autre côté. Donc, on est dans une courbe où les chrétiens officiels sont en train de sombrer et il y a de nouveaux chrétiens. Donc, c'est ce qu'on vit. Donc, viendra un temps où tout ça va se bloquer, le Seigneur revient. Il revient. Donc, c'est...
Donc, les vieux chrétiens, ils abandonneront la foi, mais il y aura des nouveaux chrétiens.
Non, mais pas tous. Donc, mais c'est ce qui se passe. Plus le temps passe... Plus les gens sont en train d'abandonner la foi. Pas forcément officiellement en disant j'abandonne la foi, mais dans leur vie, dans leur comportement, ils ne comptent plus sur Dieu, ils comptent sur leur intelligence, ils comptent sur eux-mêmes. J'ai vu encore là sur Internet une conférence sur la sanctifinance dans un pays africain. Donc un pasteur fait une conférence sur la sanctifinance. Donc... C'est des abominations. Comment les gens vont aller aussi nombreux dans des trucs comme ça ? C'est qu'ils ont perdu la foi. Moi, je ne les considère pas comme chrétiens. Donc, voilà. Les gens vont me dire, mais c'est l'ignorance. Mais la Bible dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Mais il va périr quand même. Donc, la sanctifinance. Donc, ils vont mêler l'argent même à la sainteté. Donc, c'est des abominations qui se font aujourd'hui. Tu te dis, mais est-ce que les gens sont encore chrétiens ? Et le Seigneur l'a dit dans Luc 18, est-ce que quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il encore la foi ? Donc, le nombre... La parabole des invités nous montre que les invités n'ont pas voulu. Et on a pris des gens qui n'étaient pas prévus, c'est eux qui sont partis à l'invitation du roi. C'est ça les noces de l'agneau. Donc, il va se faire que les chrétiens officiels, peu, iront aux noces de l'agneau. C'est les chrétiens des dernières minutes qui, beaucoup plus, iront aux noces de l'agneau. C'est ça la réalité. Nous continuons. Genèse, chapitre 11. Verset 10. Voici la postérité de Sem. Sem, âgé de 100 ans, engendra Arpachad 2 ans après le déluge. Sem vécut après la naissance d'Arpachad 500 ans et il engendra des fils et des filles. Et puis on passe au verset 24. Nakhor, donc la descendance de Sem, âgés, puisque là on cite hein, toute la descendance, on ne va pas lire toute la descendance, on arrive à un accord. Âgé de 29 ans engendra Térak. Nakhor vécut après la naissance de Térak 119 ans et il engendra des fils et des filles. On voit que l'âge commence à baisser. Hein. Voilà. Térak, âgé de 70 ans, engendra Abraham, Nakhor et Haran. Voici la postérité de Térak. Térak engendra Abraham, Nakhor et Haran. Haran engendra Lot. Voilà ce qui nous intéresse. Donc, Nakhor qui engendre Térak, Térak engendre Abraham, Nakhor et Haran. Voici la postérité de Térak. Térak engendra Abraham, Nakhor et Haran. Haran engendra Lot. Donc Lot, le neveu, donc le fils du frère d'Abraham. Et Haran mourut en présence de Térak, son père, au pays de sa naissance, à Ur, en Chaldée. Abraham et Nakhor prirent des femmes. Le nom de la femme d'Abraham était Sarai, et le nom de la femme de Nakhor était Milka, fille d'Haran, père de Milka et père de Jiska. Sarai était stérile, elle n'avait point d'enfant. Térak prit Abraham son fils et Lot, fils d'Haran, fils de son fils, et Sarai sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils. Ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldée pour aller au pays de Canaan. Ils vinrent jusqu'à Charan et ils y habitèrent. Les jours de Térak furent de 205 ans. 205 ans et Térak mourut à Charan. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. » Donc ça, c'est un grand tournant pour la foi en Dieu. Pour le christianisme, c'est ce passage-là. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront béni en toi. » Voilà. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Donc ça, c'est un tournant parce que Abraham est appelé le père de la foi. Donc la Bible dit que nous sommes de la postérité d'Abraham parce que nous avons cru comme Abraham. Et là, nous devons être attentifs à la manière dont le Seigneur a travaillé avec Abraham. Il lui dit, quand il se révèle à lui, il dit, va-t'en de ton pays. Donc, première chose, il lui demande de sortir de sa force naturelle, de son environnement naturel, parce que quand on est entouré de sa famille, on est fort. Il y a beaucoup de choses qui coulent. On fait des efforts pour certaines choses, mais pas pour la plupart des choses, parce que la famille est là, les terres sont là, les oncles sont là. On est fort ensemble. Et il dit, va-t'en de ta patrie. Donc on voit que le Seigneur amènera tout chrétien, parce qu'il ne faut pas croire qu'il y ait des épreuves pour les uns et pas pour les autres. Tout chrétien est appelé à vivre la parole. C'est écrit dans Matthieu 4:4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui vient de la bouche de l'Éternel. Toute parole. Donc on ne peut pas penser, ah mais c'est seulement pour les épreuves des pasteurs. Non. Il y a des particularités, mais l'ensemble est le même, l'idée est la même. Et là, l'idée qui est là, c'est quoi? C'est que Dieu, quand il nous appelle, il nous sort toujours de tout ce qui constituait notre force, notre puissance. Il nous sort toujours de ça. Et à cause de la négligence de cette idée-là, beaucoup n'ont jamais vécu la suite. La suite, c'est quoi? C'est que je ferai de toi une grande nation, je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Donc la suite là n'est pas vécue par beaucoup de chrétiens à cause du fait que la première partie n'est pas non plus vécue.
où Dieu te sort de ton système. Et beaucoup ne veulent pas quitter leur système. Ceux qui faisaient leur force dans leur passé, ils ne veulent pas quitter ça. Et ils pensent même que Dieu en a besoin pour son église. Bon, moi je viens dans l'église pour apporter telle chose. Non, 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 non. Tu viens parce que Dieu te dit, sors de ton système et va, plus grave encore, dans le pays que je te montrerai. C'est-à-dire, on ne te montre pas où tu vas. Ça nous rappelle quoi? Bien-aimé, là, c'est des moments très, très importants. Ça, c'est des moments très importants. Ça nous rappelle la parole que le Seigneur a dite à Pierre. Quand tu étais jeune, tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, quelqu'un d'autre mettra la ceinture et t'amènera où tu ne voudras pas. C'est-à-dire que tu ne sais même pas où tu vas. Donc on te demande de quitter quelque chose de sûr, pas pour te proposer quelque chose clairement comme ça d'important, mais pour te la promettre. On te promet plutôt une chose importante, mais on ne te propose pas ça. On te dit que tu auras, mais on ne te dit pas que tu l'as. Donc toi, commence d'abord par quitter ton système de force, là où tu te sens fort bien. Quitte d'abord ça, c'est ainsi que tu auras la suite. Il y a quelqu'un qui m'a dit, mais comment il t'arrive de prendre une décision qu'on puisse faire, par exemple, un concert dans un pays étranger? La personne disait, mais on me dira peut-être que je raisonne beaucoup, mais imaginez, il faut déjà penser qu'il y aura des gens pour venir chanter, il faut déjà organiser là-bas, il y a plein de paramètres. Comment ça peut arriver? Je dis, mais non, mais l'idée est simple, c'est que Dieu veut sauver tous les hommes et qu'il nous a choisis pour ça aussi. À partir de cet instant-là, quand tu arrives dans un pays étranger, les idées viennent et tu te dis, bon, on peut faire telle chose pour Dieu. Mais tu n'as pas vu la chose. Elle est lointaine, mais tu y es couvert par la promesse d'Abraham. On t'amènera là où tu ne maîtrises pas. C'est ça, quand on décide, par exemple, quand on a décidé le concert en Guyane, 4 mois avant, je ne savais pas si ça pouvait avoir lieu, puisqu'il y avait encore 2 inscrits, c'est tout. Donc, et après, les inscrits sont venus. Donc, je me disais, mais quand ça va arriver s'il n'y a personne? Donc, on devrait annuler les salles qu'on a prises. Mais il faut, avec Dieu, comprendre comment il fonctionne. Il fonctionne comme ça. Il te fait quitter quelque chose de sûr. Voilà, vous quittez Rouen, c'est sûr, vous avez une salle, vous avez tout pour faire ce qu'il faut, mais pour aller là où tu n'es pas sûr, il n'y a pas d'assurance. Mais il y a l'obéissance à la voix de Dieu, c'est ça la différence. Donc un chrétien qui veut à tout prix une assurance avant d'agir n'est pas dans le principe d'Abraham. Il n'est pas dans le principe d'Abraham. Un chrétien écoute la voix de Dieu et il continue, voilà, sans voir clairement là où il va, mais il a bien entendu par contre clairement la voix de Dieu. Oui.
Je ne sais pas si on pourrait prendre ce verset comme prophétie sur Babylone. C'est Jérémie 51, 29. La terre s'ébranle, elle tremble, car le dessein de l'Éternel contre Babylone s'accomplira. Il va faire du pays de Babylone un désert sans habitants.
Voilà, donc c'est déjà une prophétie sur Babylone. Donc nous continuons. Et Jésus dit la même chose à Pierre. Et quand Jésus envoie ses disciples, il leur demande de ne pas prendre leur propre argent. Il ne leur demande pas seulement de demander et de ne pas demander. Il dit, vous ne prenez pas. Vous quittez votre assurance. Vous quittez votre... Il ne faut pas être couvert par ton assurance. Nous, on veut être couvert de certitudes humaines. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche avec Dieu. Ce n'est pas comme ça que ça marche avec Dieu. Si nous voulons voir la bénédiction, nous devons renoncer aux certitudes humaines. Parce que là, ce qu'on demande à Abraham, c'est un renoncement. On ne lui a pas dit que chez son père, c'est le diable. Chez son père, c'est le péché. quitte cet endroit mauvais. On ne lui a pas dit ça. On dit, tu quittes cet endroit, c'est tout. Et comme le Seigneur a dit à Pierre, on t'amènera où tu ne voudras pas. Il a dit aux autres, allez, faites de toutes les nations des disciples. Donc vous ne savez pas exactement, chacun ira quelque part. Mais ce qu'il faut, vous devez quitter Jérusalem. Vous commencez là, mais vous devez quitter. Oui.
En général, ou quand tu parles, j'ai comme l'impression que quand Dieu veut nous amener quelque part, il faut à tout prix. Est-ce qu'on ne peut pas aller à un endroit où on veut aussi nous-mêmes? Il faut seulement que ce soit un lieu où, au départ, il ne faut pas qu'on. Comment dire un lieu où, voilà, c'est Dieu qui décidera. Toi, peut-être tu ne veux pas. Mais Dieu décide après, bah, Dieu met ce qu'il faut. Mais j'ai l'impression que toujours, ça a toujours été, Dieu t'amène, ou Dieu te laisse te conduire là où tu, voilà, Seigneur, moi je vais aller à gauche. Bon, on te dit non, c'est à droite. Bon, après c'est à droite, tu t'habitues à aller à droite. Mais j'ai l'impression que ça sera toujours ça où je peux me dire un jour que non, Seigneur, je vais aller, par exemple, dans le sud. Après Dieu dit, bah, c'est le sud aussi. Bah, voilà, est-ce que ça sera toujours le nord
peut-être. En tout cas, ça ne sera pas fréquent. Ça sera très rare. Voilà. Donc en général, il a dit au Seigneur, à Pierre, Dieu t'amènera où tu n'as pas pensé. Voilà. Donc c'est en général ça. Mais ça ne veut pas dire que forcément ça va nous dégoûter aussi. Quand Paul fait un songe où les gens de Macédoine lui disent « viens vers nous », ce n'est pas forcément un endroit dangereux. C'est juste que Dieu t'amène là où tu n'y as pas pensé, c'est tout. Donc ça ne va pas être forcément un endroit difficile. Voilà, ça peut être un endroit difficile, mais c'est beaucoup plus l'idée qui est là, c'est quoi? C'est que ce n'est pas toi qui contrôles. Donc il faut garder la pensée. La pensée, c'est celle-là. Ce n'est pas toi qui contrôles. C'est ça l'idée. Et pour que ce ne soit pas toi qui contrôles, donc tu dois perdre toute ta force. C'est ça l'objectif. On te fait enlever tout ce qui te fait ta force et ton assurance, afin que tu t'abandonnes à Dieu seul. C'est ça l'objectif. Et lorsque la décision nous revient, nous allons prendre des décisions en fonction de ce qui nous rassure. Voilà. Et on ne peut pas faire la volonté de Dieu parce que notre foi repose sur nous-mêmes. Voilà. Or, nous avons un ennemi qui est plus fort que nous. Donc, pour que nous puissions le combattre, il faut que notre foi repose sur Dieu lui-même. Donc, ce principe est très important. Genèse 12, c'est le tournant. Il y a eu des serviteurs avant Abraham, mais à partir d'Abraham, c'est le tournant. Donc là, on entre dans une autre dimension. On entre vraiment dans la proximité entre le serviteur de Dieu et l'homme et dans son travail. Ce n'est pas seulement l'intimité entre les deux. Donc, et cet homme-là est utilisé pour la bénédiction de toutes les nations. C'est ça la différence. Là, on passe à une autre étape. On passe dans. Il y a Noé qui était dans une certaine intimité avec Dieu. Il y a Enoch, tous ces gens-là. Mais ils n'ont pas été utilisés pour le monde comme ça. Voilà. Noé a été utilisé pour préserver l'humanité, mais pas pour évangéliser, changer le monde qui est déjà là. Et là, Abraham, Dieu décide que par lui, les choses, donc sa bénédiction à lui, Dieu, va toucher toutes les nations. Mais pour que nous puissions expérimenter les mêmes choses qu'Abraham, nous devons accepter la manière dont le Seigneur a travaillé avec lui. Il a dit, tu quittes ton confort, tu quittes tes endroits sûrs, parce que moi je vais t'amener où moi j'ai décidé. Il ne lui dit même pas où. Et vous devez comprendre, bien aimé, qu'on n'est pas en train de parler à des oranges, à une orange qui va sortir d'un arbre. Non, on parle à un père de famille, on parle à un homme qui a des oncles, qui a des parents, qui a des frères. Il faut aussi qu'il explique. Maintenant, tu vas vers ta famille pour dire, bon, je pense que je dois quitter ici. Tu vas me dire, bon, mais pour aller où? Oh, je ne sais pas. Amen. Vous imaginez tout ce que les gens vont dire. Il a piqué une crise, il a craqué, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, c'est ça. Donc, on n'est pas en train de parler à quelqu'un qui est seul sur un arbre, comme il y a le truc Robinson Crusoe sur une île, je ne sais pas quoi. C'est quelqu'un qui a une famille, qui a des enfants, qui a une femme. Donc, il va dire quoi? Mais on quitte ici, pourquoi tout est bien là? Parce que On doit obéir à la voix de Dieu. Mais oui, mais où? Mais je ne sais pas. Il m'a dit seulement de partir. Ah, vous vous imaginez la lourdeur qu'il y a à prendre de telles décisions. Ce n'est pas facile. Eh bien, c'est ça, la vie du chrétien. Ne pas chercher forcément c'est que tout le monde soit d'accord avec toi. Tu dois faire la volonté de Dieu qui est dans la parole. C'est tout. Parce que quand tu commences à chercher c'est que tout le monde soit d'accord avec toi, tu n'es plus dans la logique d'Abraham. Parce qu'un homme qui quitte son terrain où il est à l'aise, il y a sa famille, il y a tout, et qui s'en va, les gens vont dire, mais il est devenu fou. Mais si encore il savait où il allait, on a dit, ah, il compte aller investir dans tel endroit. Non, je dis, je ne sais pas, j'obéis juste à la voix de Dieu. Et ça, aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ne veulent pas vivre cette vie-là. Ils veulent que, quand ils vont dire quelque chose, ça soit accepté, que les gens trouvent ça logique. Et si les gens trouvent ça logique, là, eux-mêmes, ils sont rassurés, ils peuvent maintenant en parler. Ah non, l'apôtre Paul a dit dans Galates 1:10, si je cherchais à plaire aux hommes, je ne serais plus serviteur de Dieu. C'est ça le problème. Il faut prendre les décisions selon Dieu et s'attendre à ce que ça soit incompris. Parce que là, ce qu'on est en train de lire, c'est de l'incompréhension. Comment tu peux faire de telles choses? Mais quand tu sais, comme Paul dit à Timothée, oui, je sais en qui j'ai cru. Voilà. Quand tu sais en qui tu as cru, tu peux oser prendre une telle décision. C'est ce qu'a fait Abraham. Abraham est un tournant. J'ai l'habitude de dire, c'est simple pour grandir. Il faut imiter nos prédécesseurs qui sont dans la Bible. Ceux qui veulent imiter des gens qui existent à notre époque, qui ont beaucoup de 20 000 membres, qui ont beaucoup de... Ils se trompent. Et il faut lire les livres, les écritures. Il y a des gens que Dieu a placés pour qu'ils soient notre lumière, pour qu'on n'ait pas à trop réfléchir. Tu regardes seulement, tu comprends, ah, s'il a fait ça avec Abraham, c'est avec nous tous, c'est pareil. Et Jésus a dit aux Juifs, vous n'êtes pas, aux Juifs, quand je dis aux Juifs, ce n'est pas tous les Juifs, donc les gens qui s'opposaient à lui, vous n'êtes pas des descendants d'Abraham, parce que vous ne fonctionnez pas comme Abraham. Votre père, c'est le diable. Vous êtes dans la religion. Vous fonctionnez avec des systèmes. Mais Abraham, lui, il a quitté son système pour suivre, il y a Frère qui veut parler, pour suivre Dieu dans l'obéissance. Donc nous devons accepter ce fonctionnement-là, parce que c'est ce fonctionnement qui devient une bénédiction pour toutes les nations.
Oui, ma question est par rapport à, donc à cette foi-là. On voit bien qu'Abraham, il a quitté son pays et le contexte de l'époque faisait que quitter sa famille et quitter les terres dont il pouvait être héritier, c'était quelque chose de très difficile à faire. Mais lui, qui n'avait pas le Saint-Esprit, il a trouvé le moyen de quitter quand même le pays. Actuellement, les chrétiens, on a l'impression qu'on a plus de mal à accomplir ce type d'acte. Je ne sais pas si je peux me tromper, hein, je n'ai pas les statistiques, mais c'est une impression que j'ai, comme si on a plus de mal. Alors, qu'est-ce qui fait ça? La différence, la grande différence, c'est que nous, on a quand même le Saint-Esprit et on a tous ces exemples-là d'Abraham qui nous servent de témoignage. Alors qu'Abraham, lui, n'avait pas ces exemples-là. Donc, qu'est-ce qui se passe entre les deux?
Ce qui se passe, c'est l'attachement aux choses de la terre et la confiance au système de la terre. C'est-à-dire qu'Abraham a défié le système dans lequel il était. Il était dans un système familial, chacun a ses troupeaux, on a le même endroit où faire paître les brebis. Il y avait un système fort qui était sa protection. Aujourd'hui, le chrétien a de moins en moins foi en Dieu. Il met sa foi dans le système qui l'entoure, qui est sa protection. C'est ce problème-là. Donc, c'est pourquoi on dit Abraham crut en Dieu. Donc, quand tu crois en Dieu, tu es obligé de ne plus croire en autre chose. Et le chrétien d'aujourd'hui, un, il est attaché aux choses de la terre. Et c'est là qu'il perd un peu de foi. Et finalement, il a du mal à se départir du système. Donc, c'est ça le problème. L'attachement aux choses de la terre et l'attachement au système qui l'entoure.
quand on parle de pression du monde, est-ce que la pression du monde de l'époque d'Abraham et la pression du monde actuel est plus forte ou moins forte, ou est-ce que
moi, je pense que la pression actuelle, dans la pression actuelle des humains d'aujourd'hui, voilà, elle est moins forte parce que les gens sont beaucoup plus libres. Mais la faute, c'est à l'homme lui-même, qui lui-même est devenu comme un bébé attaché au système qui le porte. Ce n'est pas les humains qui vont te dire aujourd'hui il y a plus de liberté qu'avant à bouger, à voyager. Mais, puisqu'on se dit même que quand je vais dans un autre pays, je vais chercher du travail, je vais trouver, etc. Mais à l'époque d'Abraham, c'était plus dur parce que tu te dis, peut-être tu vas faire des guerres en chemin, il y a plein de dangers. Mais à notre époque, il n'y a pas ces dangers-là d'être tué en chemin, par des bandits, par des choses de ce genre-là. Mais à notre époque, c'est l'homme lui-même qui est devenu attaché à la sécurité que lui propose le monde. C'est lui-même l'homme. C'est pourquoi il doit réapprendre, je parle du chrétien maintenant, il doit réapprendre à vivre par la foi. Donc la clé se trouve là. Le juste vivra par la foi. Moins le juste vit par la foi, plus il meurt. C'est ce qui explique ça. Donc, malgré tout le confort qui nous entoure, nous devons vivre comme s'il n'y avait pas tout ça. Nous devons, nous, dépendre de Dieu pour tout. Et être prêt à ce que ça se transforme en risque de perdre certaines choses. Mais parce que tu tiens à la vie de foi. J'ai donné cet exemple, j'ai l'habitude de le donner. J'ai dit que le jour où on nous avait annoncé qu'il allait pleuvoir fortement le soir, avec des vents, des rafales, des vents très puissantes, et que malgré tout, j'ai dit quand même qu'on allait faire le concert, ce n'est pas parce que j'ai une grande foi. C'est juste parce que accepter de ne pas faire le concert parce que la météo nous annonce une forte pluie, tuer ma vie chrétienne. C'est juste une réaction de survie. Ce n'est pas une... Je ne pense pas avoir une grande foi. C'est juste que j'ai conscience que je vis par la foi. Si je n'ai plus la foi, en fait, je suis mort. En fait, c'est ça plutôt le problème. Je me suis dit, si on ne chante pas, parce que la météo a annoncé ça, ça veut dire que la parole de la météo est plus forte que la parole du Créateur. Ça veut dire que je ne suis plus chrétien. Donc, je dois choisir. Ou je suis chrétien, ou j'ai foi en la météo. S'il y avait un choix à faire, c'est le même choix que les amis de Daniel ont eu à faire. Ce n'est pas qu'ils avaient forcément une grande foi. C'est-à-dire qu'on te donne un choix de vie ou de mort, où tu meurs dans la foi, mais tu vis humainement, ou tu meurs humainement et tu vis dans la foi. C'est en ce moment-là où, si tu es un vrai chrétien, tu dis non, je veux vivre. Parce que vivre par la foi, tu te sens bien. Alors en tout cas, ça passe pour moi. Quand je vis par la foi, je me sens bien. Et d'ailleurs, quand je commence à voir beaucoup de choses, ça me fatigue. Je dis, Seigneur, mais non, je me sens plus bien. Je veux vivre par la foi. Donc, il faut choisir de vivre par la foi. C'est ainsi que tu es entretenu. Et tu peux maintenant accomplir ce genre d'acte. Donc ce n'est pas forcément, moi je ne dis pas que c'est pourquoi. D'ailleurs, c'est à cause de ça que je me suis dit, je comprends pourquoi Jésus a dit, si on a une petite foi comme un grain de sénévé. Finalement, la marche par la foi, ce n'est pas un problème de grande foi. C'est un problème de juste que, quel choix de vie tu fais? Tu veux vivre par la foi ou par la force qui t'entoure et que tu as. C'est un choix de vie. Ce n'est pas un mauvais. Donc, comme j'ai dit, je ne pense pas avoir une grande foi. Mais c'est juste que c'est un choix de vie. Comme il nous est arrivé, vous savez combien je n'aime pas l'avion. Mais maintenant, quand il fallait prendre un avion à quatre places, alors là, pour aller prier à Maripasoula, en Guyane, et puis savoir qu'il n'y a pas d'aéroport en dessous, c'est la forêt. Donc, si tu tombes avec les panthères, les anacondas qui sont là, qui vous attendent. Donc, et un petit avion, je me dis, mais là, un petit vent peut nous faire tomber. Mais le problème qui est là, c'est quoi? Je me suis dit, puisque je veux gagner toute la Guyane pour Jésus, je serai un jour amené à dire à un tel, va à Marie Passola. Mais comment moi, je vais dire à un tel, va à Marie Passola, si moi-même j'ai eu peur d'y aller? Donc, à partir de là, je suis. Donc, ma vie, donc j'ai l'impression que si je recule, je ne suis plus chrétien. Je ne suis plus dans mon appel, parce que mon appel m'impose un jour d'envoyer quelqu'un là-bas. Mais comment, moi, je peux envoyer des gens et moi-même, je ne suis pas parti, parce que j'ai peur. J'ai dit, donc j'y vais. Ce n'est pas une grande foi, c'est juste que tu veux vivre. C'est une question de vie. Je veux vivre. Je sens que si je ne prends pas ces décisions-là, je meurs dans ma foi. C'est ça le problème. Aujourd'hui, beaucoup ont choisi la sécurité et le confort pour vivre, au lieu de choisir la foi. Ce qui fait que quand les grands événements arrivent, ils ne peuvent pas faire face non plus. Quand l'appel de Dieu dit, comme Abraham, va, ils ne peuvent pas faire face. Ils vont donner toutes sortes d'arguments pour dire, ben non, ce n'est pas le temps de Dieu, ce n'est pas ceci, ce n'est pas cela. Voilà. Oui.
Oui, ma question est par rapport à l'obéissance d'Abraham. Quand l'Éternel lui dit, va, il s'en va. Mais en arrivant là où l'Éternel lui avait envoyé, si on lit un peu plus loin, on va voir qu'il a fait même des compromis avec sa femme pour se présenter comme sa sœur. Et à la fin, on lui a donné du bien de ses mondes, qu'on appelle richesse dans ses mondes, des brebis, bétail, tout ça. Il a pris et il est parti avec. C'est ce que je ne comprends pas. Parce qu'on doit, vraiment prendre l'assurance de l'Éternel, comme vous avez dit tout à l'heure, et non compter sur l'assurance de ces systèmes qu'on a.
Oui, mais c'est un humain, il a fait une faille. Ça ne change pas qu'il avait vraiment la foi pour suivre Dieu. Il a fait une erreur. Mais tout en sachant que c'était sa vraie sœur aussi. Hein. Voilà, c'était sa sœur aussi. Donc il n'a pas menti. Ce qu'on condamne en lui, c'est l'idée de se protéger par lui-même. C'est ce qu'on est en train de condamner là. L'idée de se protéger par ses propres efforts. Voilà, c'est ce qu'on condamne. Mais ce n'était pas un mensonge. Mais c'était l'idée, en disant ça, je la protège, je me protège. Voilà. Or, il fallait compter sur Dieu. D'ailleurs, ces gens lui ont dit, c'est là que Dieu utilise même les païens pour nous prêcher. Mais il fallait nous dire la vérité. Voilà. Oui.
Oui, pour revenir à la question de Frêle aussi, par rapport à nos jours, est-ce qu'aussi c'est pas aussi le problème que nous avons du mal à discerner l'appel, parce que Abraham, lui, il a répondu à l'appel de Dieu, mais aujourd'hui souvent les chrétiens ne savent pas l'appel.
Non, moi je crois que Dieu les appelle même pas du tout d'ailleurs, parce que ils ne vivent pas par la foi. Dieu n'appelle pas parce que moi, ça a été le sujet de mes plaintes, hein, mm-hmm. pendant des années. Pourquoi ils ne bougent pas? Ils sont là, ils ne bougent pas. Mais un jour, Dieu m'a dit clairement, d'ailleurs, lui-même ne les appelle pas. Parce que ils ne sont pas. Je me suis fait la réflexion, si quelqu'un, Dieu ne l'a pas appelé, pourquoi moi, je vais l'envoyer de force? Donc, j'ai compris que c'est Dieu lui-même qui n'appelle pas. Pourquoi il n'appelle pas? Il faut qu'on accepte son système de fonctionnement. Il ne peut pas t'appeler avec toutes les tentations qu'il y a, avec toutes les propositions qu'il y a. Si le frère vient de nous citer, déjà Abraham, avec sa foi, chute. Mais maintenant, toi, tu vas sans la foi d'Abraham. Et tu vas faire quoi? Des grands dégâts, comme a fait Saül. Donc, c'est ça. Je crois que Dieu n'appelle même pas parce que la foi n'est pas là. C'est ça. Oui.
Moi, je voulais savoir, du coup, par rapport à l'exemple que tu as donné pour la fête de la musique. Donc, finalement, parce que la foi, tu peux tout faire avec.
Oui.
Donc, si jamais il avait plu, par exemple.
Mais il y a un risque. C'est-à-dire, le risque, c'est quoi? Il pleut quand même. Les instruments qu'on a, ça coûte environ au minimum 20 000 euros si on additionne tout. Ça se détruit. Donc, tout le monde va te considérer comme irresponsable. Les échos vont durer environ 6 mois sur ton irresponsabilité. On va se moquer de toi. Et c'est ce risque-là que tu prends. Mais maintenant, c'est une forme de mort. C'est-à-dire que si ça loupe, tu es mort. Mais tu es mort humainement. Mais tu as gardé ta foi. Le problème, c'est qu'est-ce qui me fait vivre? Quelle option de vie j'ai choisi? J'ai choisi de vivre par la foi. Donc, quand tu as choisi de vivre par la foi, tu peux te retrouver tout seul en prison, comme Paul était en prison. Il y avait des prédicateurs dehors qui disaient, mais si lui, il est vrai, comment il est en prison? Nous, on prêche aussi Dieu, on est dehors, on est béni. Mais tu es heureux parce que ta foi fonctionne. En fait, c'est ça le problème. Donc, je préférais que les gens se moquent de moi, ça pleut, ça m'a pas marché, les instruments sont abîmés, tu vois, irresponsable, tout. J'ai préféré mourir humainement, mais garder ma foi. Comme j'ai l'habitude de dire, on me coupe la tête, mais sur le champ de bataille. Donc j'ai gardé ma foi, oui.
Non, mais c'était ça justement, parce que du coup, par rapport à la foi, au choix dans la vie de tous les jours, c'était ça, je voulais savoir, du coup, c'est quoi le... Si tu te trompes, c'est le fait de rester en paix et d'avoir gardé la foi, c'est ça qui... C'est juste ça, en fait.
Oui, oui. Mais quand nous avons connu des problèmes ici, dans les années 2007, moi, je pouvais... on a quand même des costauds ici. Je pouvais dire à mes costauds, allez-vous les sortir. Mais je savais que si je fais ça, je perds ma foi et mon autorité spirituelle. Je préférais tout perdre, rentrer chez moi à la maison, voilà, et garder mon autorité et ma foi. Je sais qu'avec la foi et l'autorité, je peux tout reconstruire. Mais si j'avais fait cet acte-là physique, d'user de la force physique, je perdais spirituellement, et c'est fini pour moi. Donc, côté spirituel, je suis mort, quoique vivant physiquement. Mais comme maintenant, tu as fait le choix de vivre plutôt spirituellement, voilà, tu préfères plutôt mourir physiquement et vivre spirituellement. Oui.
Oui, je voudrais revenir sur ce problème d'appel. Si je considère le cas de Gédéon dans Juges 6, je crois que Dieu s'était présenté à Gédéon sans que Gédéon ait eu posé à l'avance quelques actes de foi. Dieu l'a même appelé vaillant héros avant même qu'il ait à poser des actes de foi. Est-ce que le problème de nos jours, je ne sais pas, vient essentiellement de la foi?
Ah oui, parce que Dieu connaît le cœur. Mm-hmm. Il connaît le cœur. Parce que quand Dieu se révèle à Gédéon conteste. Mm-hmm. Mais il conteste en disant quoi? En disant, nous on a cru en ce que tu as fait en Égypte. Mm-hmm. Pourquoi on ne voit pas ça jusqu'aujourd'hui? Mm-hmm. Donc Dieu se contenterait même de ça. Aujourd'hui, Dieu veut juste qu'on commence même à contester.
Bon, admettons qu'il y ait des personnes qui soient dans cette situation, qui aient cette soif-là, qui commencent à contester avec Dieu,
oui.
Au point même de dire que, bon, si les choses n'évoluent pas, autant mieux rentrer dans les rangs et voilà.
Ça veut dire que ces personnes-là, quand ça va tomber sur eux, ils vont regretter. Donc, quand l'appel et la gloire de Dieu va tomber, ça sera très grand. Donc, Dieu les prépare à l'humiliation, au brisement, parce que ce qui les attend est grand.
Donc, en fait, il faut percevoir les situations difficiles d'humiliation comme des préparations pour ces personnes-là.
La gloire de Dieu est plus dangereuse encore que les tentations. Donc, si on n'est pas préparé, la gloire de Dieu nous fait chuter à coup sûr. Le corps humain ne peut pas supporter la gloire de Dieu. Pour qu'il supporte ça, il faut qu'il meure. C'est ça la condition. Et c'est ça qui peut faire traîner les choses, parce que Dieu nous prépare. Oui. Voilà, donc, bien-aimés, nous devons revenir au système d'Abraham. C'est ainsi que,
il a été une bénédiction pour toutes les nations. Et on lit au verset 4, Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'ils possédaient et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan, et ils arrivèrent au pays de Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chênes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, « Je donnerai ce pays à ta postérité. » Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Il se transporta de là vers la montagne à l'orient de Bethel. Et il dressa ses tentes, ayant Bethel à l'occident et Haï à l'orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel et il invoqua le nom de l'Éternel. Abraham continua ses marches en s'avançant vers le sud. Il y eut une famine dans le pays et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. Comme il était très près d'entrer en Égypte, il dit à Sarai, sa femme, « Voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, « C'est sa femme, et ils me tueront, et te laisseront la vie. Dis, je te prie que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi, et que mon âme vive grâce à toi. » Lorsqu'Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était fort belle. Les grands de Pharaon la virent aussi et la vantèrent à Pharaon. Et la femme fut emmenée dans la maison de Pharaon. Il traita bien à Abraham à cause d'elle. Et Abraham reçut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs et des servantes, des ânesses et des chameaux. Mais l'Éternel frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison au sujet de Sarai, femme d'Abraham. Alors Pharaon appela Abraham et dit, « Qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré que c'est ta femme? Pourquoi as-tu dit c'est ma sœur? Aussi l'ai-je pris pour ma femme. Maintenant, voici ta femme, prends-la et va-t'en. » Et Pharaon donna ordre à ses gens de le renvoyer, lui et sa femme, avec tout ce qui lui appartenait. Donc nous sommes là face à un exemple qui nous montre que même si on a la foi, ça ne veut pas dire qu'on est parfait. Donc on peut vaciller, on peut faire des erreurs. Donc il faut faire la différence entre la perfection et la foi. Quelqu'un qui a foi, c'est quelqu'un qui compte sur Dieu. Mais ça ne veut pas dire qu'il sera toujours fort ou constant. Donc il peut avoir des moments de peur, des moments d'hésitation, des moments de doute et faire des erreurs à partir de là. Mais tout est lié toujours à quoi? Au fait de vouloir sauver sa vie, au fait de profiter du système, au fait de vouloir être sûr, d'être protégé. Tout est lié au confort. Tout est lié, comme on l'a dit au début. Il a dit « quitte ton système ». Pareil, donc quand souvent les gens finissent par mentir, c'est quoi? Parce qu'ils ne veulent pas dire la vérité, parce que la vérité va compromettre leur tranquillité. Donc c'est ça, ils sont amenés à mentir. Et c'est la même chose. Donc Abraham dit que sa sœur, pour éviter des problèmes. Donc il oublie que c'est par la foi qu'il doit vivre, il doit compter sur Dieu, et il veut compter sur sa stratégie à lui. C'est une erreur qu'il a commise. Nous devons être constants dans notre foi. Nous devons veiller à notre foi plus qu'à tout. Toujours veiller à notre foi. Et lui, il commet deux erreurs. Première erreur, il quitte l'endroit où Dieu le fait stationner parce qu'il y a la famine. Nous savons qui a commis cette erreur et ça s'est mal terminé dans la Bible. Élimélec, dans l'histoire de Ruth, Élimélec a quitté Bethléem, la maison du pain, parce qu'il manquait du pain. Mais comme c'est la maison du pain, il va toujours y en avoir. Mais lui, il a quitté quand même, il est parti pour chercher un endroit où il peut prospérer matériellement. L'idée est toujours de... L'homme, c'est ça le problème de l'homme, qui n'arrive pas à vivre par la foi parce qu'il est attaché à la vue, au matériel, au système qui l'entoure. Et donc, il part là où il veut trouver un bon système. Et c'est là qu'il va perdre sa vie, ainsi que ses deux fils. C'est ce qui est arrivé. Et là, Abraham quitte l'endroit où Dieu le fait stationner pour toujours, dans une quête de trouver un système de confort. Un système où il va s'en sortir. Or, le Seigneur Jésus dit, celui qui cherche à sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui la perd pour la vérité, la sauve. C'est ce qui se passe là. Donc, notre grande lutte, c'est par rapport
à notre autonomie. On pense toujours que la lutte, c'est par rapport aux tentations du diable. Non, la vraie lutte, c'est par rapport à notre autonomie, par rapport à notre chair. Parce que ça, c'est... quand Adam a péché, il n'y avait pas l'impudicité. Il n'y avait pas le vol. Il n'y avait pas les bagarres. Il n'y avait pas tout ça. Il a péché parce qu'il y avait un souci d'autonomie. C'est ça le plus grand péché, le plus grand mal, le souci d'autonomie, de gérer tout, l'esprit de contrôle. Donc être l'esprit d'assurance, de sécurité, c'est ça le plus grand mal. Et Abraham encore chute parce que le pain manque, il faut la sécurité et il va chercher le pain en Égypte. Et arrivé là-bas, il faut encore la sécurité. Si je dis que c'est ma femme, on va me tuer pour la prendre. Donc, je dis plutôt que c'est ma sœur. Toujours l'esprit de rechercher la sécurité, le confort, un système que tu maîtrises et qui te favorise. C'est ça qui fait tomber par rapport à la foi. Or, la foi, c'est dire, Dieu va s'en occuper. Moi, je reste dans son chemin, lui va s'occuper du reste. Je crois en lui et lui va s'occuper du reste. Et même Abraham a failli, c'est une réalité qui peut arriver. Nous passons à Genèse 13, au verset 5. Lot qui voyageait avec Abraham avait aussi des brebis, de bœufs et des tentes. Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurent ensemble, car leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phéréziens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot, « Qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi ? Sépare-toi donc de moi, si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. » Voilà encore un acte de confiance qu'Abraham manifeste. Il dit, il prend l'initiative de dire à son neveu, choisis la partie que tu trouveras la plus aisée, moi je prendrai l'autre. Pourquoi ? Parce qu'il fait confiance en Dieu. Il ne veut pas prendre la meilleure part. Il dit à l'autre, choisis la meilleure part. Moi, avec le reste, je ferai avec Dieu. C'est tout. Et bien sûr, les gens qui n'ont pas vraiment la foi, l'autre se précipite. Hein, verset 10, l'autre leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel ait détruit Sodome et Gomorre, c'était jusqu'à Tsoar. Comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain. Et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Donc Lot choisit la meilleure part. Attachement humain, il choisit ce qui brille. Voilà, ce qui est beau. Or, ça allait finir par être presque son cimetière, Sodome et Gomorre. Mais il choisit ça parce que c'était la belle plaine, fertile, verdoyante. Et Abraham fait confiance en Dieu. Et il est écrit au verset 14. Au verset 12. Abraham habita dans le pays de Canaan et Lot habita dans les villes de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. Donc dans le confort, il choisit d'être près des ennemis de Dieu. Verset 14. L'Éternel dit à Abraham, voilà la différence. Après que Lot se fût séparé de lui, lève les yeux. On voit la différence de phrase. Verset 10, Lot leva les yeux. Verset 14, l'Éternel dit à Abraham, lève les yeux. Différence. Quelqu'un qui est dans la chair, c'est lui qui lève les yeux. Donc, comme il dit, bon, je vais aller en mission aux États-Unis. Près de Washington, voilà. Comme on voit beaucoup de chanteurs congolais, de prédicateurs congolais. Mission internationale. Donc, il commence dans une petite cabane, il met déjà l'affiche, mission internationale. Oh. Tu n'as pas encore gagné ta ville. Et on les voit toujours, quand il dit mission internationale, ils vont où? À Bruxelles, à Paris. Mais ils ne vont pas au Niger, dans des endroits cachés. Ils ne vont pas au Sénégal, dans des villages. C'est toujours Paris, Bruxelles. Donc c'est ça la mission internationale, mais non. En réalité, c'est le ventre, c'est tout. Donc eux-mêmes, ils lèvent les yeux. La mission internationale, c'est à Paris, là-bas. Mais non. Mais quand tu es de Dieu, c'est Dieu qui te lève les yeux, qui te dit, va là-bas. Vous voyez, donc la Bible, quand je lis tout ça, je suis heureux de voir que tel que ça se passe dans le Nouveau Testament, c'est déjà dans l'Ancien Testament comme ça. Quand Jésus dit à Pierre, quelqu'un d'autre te mettra la ceinture, il t'amènera. Mais c'est déjà là. Dès l'ouverture de la Bible, on est dans l'ouverture de la Bible, Genèse. On n'a même pas dépassé le chapitre 20. On est au chapitre 13. Déjà, donc, ce comportement est déjà là. Donc, il n'y a de rien de nouveau. Tout est ancien. Lève les yeux. Et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'orient et l'occident, car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. Abraham leva ses tentes et vint habiter parmi les chênes de Mamré qui sont près d'Hébron, et il bâtit là un autel à l'Éternel. Amen. Voilà, nous arrêtons là pour encore dire au Seigneur, Seigneur, donne-nous cette foi-là, que nous puissions attendre que tu nous lèves les yeux et tu nous dises ce que nous avons à faire, qu'on ne fasse pas comme Lot qui a regardé, qui a décidé ce qu'il devait faire, mais que nous puissions nous attendre au Seigneur. Et nous savons par la suite que les promesses s'accompliront. Quelqu'un qui lève les yeux tout seul et qui fait par lui-même, échouera. Au début, il semblera réussir, comme Lot a semblé réussir. Mais ça a fini par être Sodome et Gomorre. Il était obligé de tout lâcher. Et sa femme était tellement triste de tout lâcher qu'en se retournant, elle est devenue un bloc de sel. Mais Abraham a préféré ne pas choisir par lui-même, mais vivre ce que Dieu voulait lui faire vivre. Bien-aimés, acceptons ce que Dieu veut nous faire vivre. Même si ça semble injuste, parce que sincèrement, ça c'était comme injuste. C'est Lot qui était le plus petit, mais c'est lui qui choisit le premier, la belle part. Et Abraham, qui, d'ailleurs, c'est lui qui avait entraîné, Lot l'avait suivi. Mais c'est Lot qui choisit la belle part. Et Abraham est obligé d'attendre que Dieu lui dise, va dans tel endroit. Ça paraît injuste, mais je peux vous dire que c'est glorieux parce que Dieu a un appel glorieux pour chacun, pour tous ceux qui sont de lui. Jean 14, 12 le dit à 14, que ceux qui viendront après moi feront de grandes choses, mais pourquoi on ne le fait pas? Parce qu'on ne passe pas par le chemin d'Abraham. Donc il faut laisser Dieu nous lever les yeux pour nous dire, va dans tel endroit, fais ceci, fais cela. Il faut accepter de vivre ce que Dieu veut te faire vivre. C'est de là que jaillira la grande puissance de Dieu. Ce n'est pas dans notre sécurité. La force de l'homme est illusoire. C'est Dieu qui est glorieux. Mais il y a des passages. Et c'est le passage d'Abraham. La foi et la conduite par Dieu et non pas notre propre assurance, notre propre conduite. Que le Seigneur nous aide à accepter le chemin par lequel il nous fait passer. Dans la foi, ce n'est pas dans le hasard, mais dans la foi. Et ainsi nous verrons la gloire de Dieu. Ne cherchons pas à lutter par nous-mêmes et à faire les choses par nous-mêmes. Seigneur, au nom de Jésus, nous voulons que tu nous aides, Seigneur, à imiter notre ancêtre, Abraham. À imiter Abraham parce que nous voulons être une bénédiction pour les autres. Nous ne voulons pas être un fardeau difficile pour les autres. Nous ne voulons pas être un canal que le diable va utiliser comme à un moment il a utilisé Pierre. Tu lui as dit « arrière de moi Satan ». Donc ça montre que même nous, les chrétiens, nous pouvons être utilisés par le diable. Alors nous ne voulons pas de ça, Seigneur. Nous voulons garder la foi. Ainsi, nous pouvons être utilisés que par toi. Nous voulons garder la foi et nous attendre à toi. Même si l'autre choisit la meilleure part, même si on a l'impression que les autres ont la plus belle part, Seigneur, que nous puissions accepter la part que toi, tu nous as réservée. Parce que tu connais tout. C'est pourquoi c'est écrit dans Romains 8, 28. Tout concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Donc parce que tu connais tout, donc ce qui nous arrive, en quelque sorte, c'est notre part. Mais c'est une part glorieuse. Mais pour autant que nous acceptions cela, Seigneur, aide-nous à accepter et attendre que tu nous lèves les yeux pour nous dire ce que nous avons à faire. Nous nous attendons à toi, Seigneur. Merci pour Abraham, que tu as gardé dans la foi, que tu as travaillé afin que nous ayons un exemple clair. Lui qui n'avait pas d'exemple clair a été dans la foi solide avec toi. Mais nous avons lui comme exemple. Nous voulons faire mieux que lui. Car nous sommes privilégiés par rapport à lui. Béni soit ton nom, Seigneur. Tendre Père, je mange Seigneur au siècle des siècles pour tous tes bienfaits au nom de Jésus. Amen. Voilà, que Dieu nous bénisse.